L'imposture, deuxième partie, chapitre 2. Alors la voix de M. Guéroux s'éleva, cette voix grêle qui vibre dans son arrière-gorge lorsqu'en pleine confusion, en plein désordre, délaissant une minute la mort attendue et urgente, il se dilate et s'épanouit. « Permettez, jeune homme, ce calcul n'a rien de vraisemblable et de légitime de la part d'un écrivain dont nous savons qu'il a l'étoffe d'un homme d'État. » Mais s'il est vrai qu'il a besoin de vous, pourquoi vous perdrait-il aujourd'hui ?
Je ne sais, je ne sais pas, balbutia le malheureux. Je sais qu'il me perd, voilà tout. Pour moi, cela suffit. Quand même, rendez-vous compte.
Il épongea son front ruisselant. 16 000 francs !
16 000 !
Fit soudain M. Catani avec un petit rire glacé. Monseigneur Espelette et Jérôme échangèrent le même regard anxieux. Notre vénérable ami n'en peut plus, remarqua l'évêque de Pommiers. Cette scène l'a brisé. Monsieur Pernichon, je vous en prie.
Extrême imprudence, continua Monsieur Catani du même ton. Dangereuse imprudence. Quelle prodigieuse imprudence.
Il s'agita sur sa chaise, convulsivement, comme si, dans le désastre de l'âme, le vieux corps s'opposait une dernière fois de toutes ses forces, à l'imminente trahison de la conscience, prête à livrer son secret, le secret gardé tant d'années. Madame Jérôme poussa Pernichon vers la porte et revint s'asseoir avec autorité auprès du malade, dont elle prit la main dans les siennes.
« Il a eu, mardi dernier, une hémorragie des plus graves, » confia-t-elle à Monseigneur Espelette. « On peut s'attendre à tout. C'est une scène hideuse. »
« Je m'en vais demander d'urgence une voiture, » dit M. Guéroux. « Dénouez toujours sa cravate et faites-lui respirer un peu d'éther. Voilà le flacon. »«
Laissez-moi, » murmurait le moribond, « laissez-moi. Ne m'interrogez pas, vous me fatiguez horriblement. C'est inutile, absolument inutile. Je ne vous répondrai pas. La plus grande discrétion. »
Il lança devant lui sa main ouverte, saisit au passage le bras de l'évêque de Pommiers, inclina dessus son visage.
« Écoutez-moi, » fit-il.
Mais presque aussitôt sa bouche se referma si violemment qu'on entendit le claquement de ses mâchoires. Alors il se mit à secouer la tête de haut en bas, lentement, plus lentement, ainsi qu'un homme cède au sommeil, puis son menton retomba tout à fait sur sa poitrine. Et les paupières, qu'il avait tenues jusqu'à ce moment baissées, se levèrent, décrivirent peu à peu un regard fixe, trempé de larmes et tout débordant d'un rêve que personne n'avait jamais vu. Un caillot de sang jaillit de sa gorge et tomba sur le tapis.
« Il va mourir !» cria Madame Jérôme.
« Taisez-vous donc !» dit Guéroux. « La mort n'est pas si facile, j'en sais quelque chose. »
« Le voilà déjà beaucoup mieux. Écartez-vous, c'était ce crachat qui l'étouffait. »
Les couleurs revenaient en effet au front de M. Catani, qui, tout à coup, sans laisser paraître le plus léger embarras, mais avec une grande douceur.
« J'ai pu vous donner de l'inquiétude, » fit-il. « Les premières chaleurs m'incommodent énormément, et je dois me montrer plus vigilant qu'à l'ordinaire à cette époque de l'année. »«
Nous sommes guettés, Catani. »«
Nous sommes guettés, » cria M. Guéroux d'un ton jovial. « Pour vous et moi, chaque heure du jour est une embuscade dont nous nous tirons de notre mieux. » La pauvre carcasse n'en peut plus. Méfiance.
Je vais beaucoup mieux, infiniment mieux, protesta le moribond. Les mois d'été sont les meilleurs. Dès l'automne, vous me verrez partir pour la Corse chez le comte Sapen, qui m'honore de son amitié. J'aurai affaire le printemps prochain. Les élections seront à gauche. Il s'agit, dès à présent, de manœuvrer avec une prudence extrême. Nous touchons au but. Les socialistes sont extrêmement bien disposés.
Le discours de M. de Reverso, au dernier congrès des jeunesses, a eu les résultats les plus heureux. Ce sera la consolation de ma vie d'en avoir, sinon dicté les termes, du moins inspiré les meilleures formules. Celles qui s'ouvrent sur un magnifique avenir annoncent un renversement prochain des partis et des alliances qui sera la grande révolution des temps nouveaux.
« Reposez-vous, » supplia Madame Jérôme, presque tendre.
Jamais, en effet, M. Catani n'avait parlé si longtemps, et ce bavardage fébrile, haletant, marquait plus qu'aucun autre symptôme sa faiblesse et son angoisse.
Le grand tort de certains d'entre nous, en petit nombre, est de laisser intervenir dans ces discussions délicates, ici sa voix trembla, de ces imprudents qui, pareil à celui que vous entendiez tout à l'heure, depuis plusieurs mois il m'a hélas si cruellement déçu, ont tendance, une certaine tendance à se hâter, à bouleverser. Ce n'est que trop vrai. Ah oui, ce n'est que trop vrai. J'aime la jeunesse, et celui-ci n'est pas le premier qui m'a fait commettre des sottises, des folies, de véritables folies. J'ai mis tant d'obstination, d'entêtement même, à trouver un jeune collaborateur ardent, enthousiaste. Ils me délaissent tous. Un autre que moi dirait qu'ils me trahissent. Vous venez d'en avoir la preuve. Il s'agita sur sa chaise, serrant les dents pour ne pas gémir. Et il griffait doucement de ses ongles le velours de la coudoir. Je suis bien puni, Guérou, de m'être confié à autrui. J'avais horreur de la réclame, des querelles du public. Et puis encore, ma faible santé. Voilà bien des années que j'attends. Je me possède, voyez-vous. Tout est là. Il faut se posséder. On finira par rendre justice à ma politique, une politique bien humble, bien concrète. Dès le printemps prochain... La voiture est à la porte, dit M. Guérou. Monseigneur Espelette sortit le dernier. Son émotion était encore si forte qu'il renvoya son chauffeur et résolut de gagner à pied la rue de Bellechasse. Il était l'hôte à Paris de l'ancien ministre Pupin-Gibon, député radical de la Côte d'Or, son camarade de l'école normale. Il se reprochait, car le scrupule de cette âme désarmée est douloureux et incessant, de n'avoir pas pris parti avec plus de vigueur, il n'eût su dire d'ailleurs pour qui, le désespoir de Pernichon l'ayant profondément ému, bien qu'il sentît toujours pour M. Catani la même estime mêlée de crainte, ou peut-être d'un secret dégoût. J'aurais pu agir à temps sur le jeune homme, l'apaiser, l'éclairer sur son imprudence. Chose étrange, il ne doutait guère que l'infortuné publiciste n'eût dit vrai, et pourtant la perfidie de son redoutable adversaire ne révoltait pas son cœur. La sérénité de ce sot se distingue à peine du pessimisme le plus noir, et il a des hommes le même mépris qu'un notaire ou qu'un policier, mais inconscient, stupide, inaltérable. Une fois pour toutes, et malgré la réelle honnêteté de ses mœurs, sa juste sévérité pour lui-même, il a donné au mensonge, à la duplicité, à l'ambition, à l'envie, à la haine, des noms rassurants. Il leur a trouvé des synonymes exquis dont il est la première dupe. Ce qu'il appellerait volontiers chez lui, si du moins il était assez vil ou assez hardi pour la commettre, trahison, prend dans sa bouche, à l'égard d'autrui, le surnom beaucoup plus favorable de tricherie ou d'excessive habileté. Pareillement, certains provinciaux s'imaginent qu'une Parisienne élégante ne saurait être que perdue de mœurs. Ainsi, ce naïf compliqué croit dur comme fer qu'un homme de lettres, un journaliste, un député, même de l'espèce bien pensante, bénéficie d'une sorte d'alibi moral, a droit à un traitement de faveur, ne peut être tenu, avec le commun des êtres raisonnables, d'observer les règles élémentaires de la simple honnêteté. Il éprouve à connaître, à fréquenter d'aussi près ses privilégiés, à s'en servir, la même équivoque fierté du fils de famille, faisant honnêtement sa partie dans un tripot et finissant par se lier d'amitié avec des Grecs et des filles, qu'il montre de loin à de jeunes cousines stupéfaites. Cette indulgence souriante, ce scepticisme à fond de candeur, fait l'admiration de ses vicaires, et il passe avec honneur dans sa petite ville pour un Talleyrand démocrate dont le directeur du grand séminaire et quelques vieux prêtres attardés déplorent, non moins candides, les compromissions et l'audace. C'est ainsi que Saunier a tenu l'invraisemblable gageure, restant lui-même sans reproche, de perdre, à l'égal d'un aventurier, un certain sens du juste, la pudeur de l'honnête homme. Tel quel, il n'osait pas s'avouer ce soir qu'il était content d'en avoir fini, mais il en savourait tout en marchant l'allégresse. Il serait le lendemain à Pommiers. On ne le reverrait pas avant la Toussaint. D'ici là, le jeune Auvergnat serait oublié,
après beaucoup d'autres qui valaient mieux que lui. Car les partis avancés, quels qu'ils soient, font une forte consommation d'hommes. Ou peut-être Catani ? Mais il appartenait à la race de ces moribonds éternels. Il sursauta de déception et de colère en entendant la voix de Pernichon. « Monseigneur, pardonnez-moi, je vous suis depuis un instant, je vous supplie de m'écouter. Vous êtes mon seul espoir. Je ne puis plus compter que sur vous.
Je rentrai chez moi, » dit mélancoliquement l'évêque de Beaumier. Il réprima très vite ce premier mouvement d'humeur.
« Quelle aventure, mon enfant !»« Je suis perdu, » interrogea le pauvre diable, « n'est-ce pas ?» Puis il fit quelques pas en silence. Sa fureur était aussi complètement tombée que possible. L'indignation est pour lui une dépense trop forte, intolérable. Tout son être, son regard inexprimable, tout son corps même, implorait le pardon, n'importe quel pardon.
« J'ai été trop loin, » murmura-t-il.
« Mon enfant, reprit le prélat, je suis heureux de vous retrouver si sage, dans cette disposition excellente, édifiante, vraiment chrétienne. J'en rends grâce à Dieu.
« Je vais. Il ne reste qu'à me tuer, » dit Pernichon.
Monseigneur Espelette s'arrêta stupéfait.
« Vous ne parlez pas sérieusement. De telles paroles, à moi, vous venez de me faire une peine immense, mon enfant.
C'est un blasphème. Vous ?»
Il s'était remis en marche, il hâtait le pas, fuyant presque.
« Qu'ai-je été faire aujourd'hui chez M. Guéroux ? » gémit-il.
« Ma place n'était pas là. Sans doute, mon cher ami, il passait paternellement son bras sous celui du chroniqueur. Vous venez de parler dans un accès, dans un léger accès de délire. Vous regrettez déjà.
Si, si, je le sais.
Mais ce trait me confirme dans cette idée, qui m'est trop familière, hélas, depuis quelque temps, que les luttes politiques et sociales ont pris un caractère, oui, même entre nous, si plein de zèle et de bonne volonté, un caractère d'acuité, de violence. Ainsi, vous-même, cher jeune ami, cette passion...
J'ai brisé ma carrière, interrompit le malheureux, sans entendre.
Je suis perdu, je suis absolument perdu. D'ailleurs, l'affaire était décidée depuis longtemps. J'ai été tiède, beaucoup trop tiède, trop prudent, à la dernière élection sénatoriale. J'avais voulu me ménager. Je me croyais capable d'être un intermédiaire utile le moment venu. On pouvait craindre une certaine réaction. Le cardinal Ricotti... Il se heurta rudement au parapet de pierre. Il chancelait comme un homme ivre.
« Un mot d'abord, » interrompit Monseigneur Espelette, avec une grande autorité. « Retirez, retirez devant moi, à l'instant, les paroles malheureuses, impies, que vous avez prononcées. »«
Quelles paroles ? » demanda l'Auvergnat béant.
« Vous le voyez, j'en étais sûr, » triompha l'évêque de Beaumier. « Vous n'avez jamais été sérieusement tenté de vous livrer sur vous-même, de commettre le crime des crimes.
Dieu ne nous abandonne jamais. Vous pouvez poursuivre, » conclut-il sur un ton de supériorité discrète. « Je vous écoute. »«
Hein ?» dit Pernichon.
« Vous avez prononcé tout à l'heure le nom du cardinal Ricotti. »
« Je pourrais évidemment faire des excuses, » continua l'auteur des lettres de Rome.
« Mais à quoi bon ? Il y a eu trop de témoins. D'ailleurs, M. Catani est désormais assez prévenu contre moi. Il devra se défendre. Son intérêt l'exige.
Si vous croyez que mon intervention ait chance de vous être utile, demanda Mgr Espelette, je retarderai volontiers mon départ.
Voyez-vous, mon cher enfant, car après ce qui vient de se passer, je me sens autorisé à vous parler en père, il n'est rien de plus dangereux, de plus maladroit, que d'irriter vainement un ennemi, pour rien, pour le plaisir, pour la seule joie de l'humilier. Dieu seul est juge des intentions. Notre devoir est de ne jamais condamner, du moins jusqu'à la limite extrême, où la bienveillance devient aveuglement ridicule, un adversaire sur ses intentions. Je puis essayer de faire comprendre à M. Catani que vous avez cédé à un entraînement excusable à votre âge, que vous avez été trompé par certaines apparences défavorables, ou peut-être imprudemment conseillé, que sais-je.
Depuis une minute, Pernichon le fixait d'un regard indéfinissable, triste et sauvage.
il retira violemment son bras. « Monseigneur, dit-il, sa voix se brisait horriblement, il n'est pas possible que vous ne le méprisiez pas. Dites-moi du moins que vous le méprisez. Dites que vous le méprisez, j'endurerai tout. Je vous en conjure. »
L'évêque de Pommiers haussa les épaules.
« À quoi cela pourrait-il vous servir ? Quel profit retirerez-vous d'une parole que mon goût, mes habitudes, l'habit même que je porte, m'interdisent de prononcer ?»«
Je suis là, soupira Pernichon, affreusement là. Je ne sais pas ce que j'ai. Je crois que je vais mourir. »
Il passait dans sa barbe une main défaillante.
« Ne me quittez pas ce soir, s'écria-t-il tout à coup.
« Quel enfantillage, dit Monseigneur Espelette, après un long silence. « Vous êtes un enfant, un grand enfant. Cela passera. Ce soir même, je vous le promets, vous serez plus sage. C'est simplement une heure de votre vie pénible à surmonter. »
Accordons-le, mais la réflexion, l'énergie viennent à bout de tout.
Il reprit le bras de Pernichon sous le sien. Il caressait de sa belle main la manche du par-dessus avec un ronron léger des lèvres.
« Je vous le jure, monseigneur, poursuivait le malheureux. « J'ai besoin, oh, j'ai besoin, comment dirais-je, j'ai besoin, j'ai tellement besoin de sympathie, de votre sympathie. Depuis quelques semaines, je ne devrais pas vous l'avouer, je sens que je vais achever de me perdre dans votre esprit. Depuis des mois, je ne sais absolument plus prier. »
Une sincère émotion, et peut-être quelque chose de plus, apparut dans le regard du compatissant prélat.
Vous devez vous ouvrir à quelque prêtre consciencieux, réfléchi, mais éclairé, sachant le monde.
Le choix n'en est pas facile, hélas. Pourquoi tant de nos confrères, et parmi les plus zélés, manquent-ils si souvent de cette largeur d'esprit indispensable? Avant que de vous conseiller, je désire me remettre, peser le pour et le contre. C'est une entreprise délicate. Accordez-moi que je ne pouvais m'attendre. Notre entretien vient de prendre un tour.
Il sourit, secoua gentiment le bras qu'il sentait frémir, allongea son index, tâta le maigre poignet.
« Vous avez la fièvre. Du moins, vous êtes en plein état fébrile. Quelle folie! Comment une simple altercation a-t-elle pu vous bouleverser à ce point? Ne prenez donc pas au tragique des malentendus.
Oui, oui, ajouta-t-il aussitôt en rougissant légèrement, je pense aussi à ce malentendu d'ordre plus intime, cette crise de sécheresse qui vous détourne de la prière.
Il y a péril, mon cher ami, à se laisser obséder par ces menus épisodes de la vie intérieure. C'est une des formes de la tentation qui...
Non, non, croyez-le bien, je ne suis pas, grâce à Dieu, de ces hallucinés qui voient le démon partout, en parlent à tout propos.
Nous prêterions inutilement à rire au maître de la psychologie moderne, dont je suis loin de repousser toutes les thèses. Les défaillances de notre nature suffisent, dans la plupart des cas, suffisent à expliquer des incidents. Ici, le moraliste et le théologien sont d'accord, ils devraient toujours l'être. Le travail, l'exercice, la pratique des devoirs d'État.
Quel devoir d'État ? Fit Pernichon. Je n'ai plus de devoir d'État, je n'ai plus rien.
Comprenez donc, ce qui vient de se passer il y a un moment pouvait être prévu, prédit à coup sûr. C'était la crise inévitable, la manifestation matérielle, concrète. Ah, ma perte était déjà consommée. J'ai cessé de plaire parce que j'ai cessé d'être utile. Je suis brûlé, voilà le mot. Je suis brûlé ici et ailleurs, je suis brûlé partout.
Allons, dit le prélat. L'appui de M. Gidoux, en quoi la rancune de M. Catani, je le dis entre nous, car enfin M. Catani, pourrait-elle changer quelque chose aux dispositions favorables de l'illustre professeur au Collège de France ?
M. Pernichon tourna vers lui un regard égaré.
« Mais il n'y a rien, il n'y a rien, avoua-t-il avec une sorte de haine. Je n'ai aucune raison sérieuse de croire à un projet si avantageux, si honorable pour moi. À peine une certaine sympathie, les relations que j'entretiens. Oh, voyez-vous, ce n'était qu'un rêve. » J'ai fait cette folie, voilà quelques semaines, de laisser croire à M. Catani. Je sentais qu'il se détournait de moi, qu'il m'échappait. Oh, monseigneur, ce mensonge m'a coûté cher. Dès ce moment, il m'a pris en exécration. Comment pouvais-je me douter?
On m'a dit qu'il négociait le mariage de Mademoiselle Gidoux avec Jean Delbos. En sorte, c'est prodigieux, incroyable. En sorte que vous vous êtes sacrifié, offert en holocauste, à une innocente vantardise, à rien. Il contemplait avec ébahissement ce personnage fallacieux, ce fantôme qu'une semaine de Paris effacerait pour jamais, qui disparaîtrait sans jamais avoir rien eu en propre, pas même ce dernier désastre, dont le prétexte était aussi fallacieux que lui. Mon pauvre enfant, mais pourquoi ? Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis le malheureux. Ce n'est pas le seul mensonge. J'avais quitté Aurillac plein d'illusions. Je souhaitais être un journaliste, qui sait, peut-être un écrivain. J'avais une recommandation du vicaire général. Je suis tombé en pleine élection, en pleine intrigue. J'ai soutenu brillamment à Chalon-sur-Marne la candidature d'un radical modéré pour barrer la route aux conservateurs. J'ai réussi. C'est ce qui m'a perdu. Hélas, je me vois tel que je suis. Je n'ai pas de talent. Non, je n'ai pas de talent. Sans l'intrigue, je n'eusse fait ombrage à personne. Mais je rédige un rapport à merveille, voilà tout le mal. Ces gens-là, ils passent leur temps à faire des rapports. Si, si, vous le savez bien. Ils les rédigent rarement. Ils ne les signent jamais. Oh, c'est un monde compliqué. Je suis trop là pour commencer autre chose. Je suis perdu. Il baissa la tête et parut sommeiller en marchant, poussant l'un devant l'autre ses pieds plats, indifférents, accablés. La Seine, à leur gauche, ruisselait d'une lumière dorée qui venait mourir aux rives dans une double frange d'écume bleue, et l'air était déchiré de cris d'hirondelles. L'évêque de Pommiers ne put supporter ce silence plus longtemps. « Permettez, cher ami, fit-il enfin, vous aviez choisi. » Mais Pernichon l'interrompit brusquement. « Que pensez-vous de l'abbé Sénabre ? » dit-il. « C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle, » commença le prélat. « Un homme hautement respectable, bien que discuté, âprement discuté, un historien dont la conscience, le talent. « Ce n'est pas ce que je demande, » s'écria l'auteur des lettres de Rome avec une irritation contenue. Il fit quelques pas, agitant convulsivement les bras et les épaules, et tout à coup, « J'irai à lui, je me jetterai à ses genoux. Depuis qu'il m'abandonne, ah, j'obtiendrai qu'il voie M. Jérôme. Un mot bienveillant de M. Jérôme dans le bulletin peut sauver ma malheureuse enquête. Je vous demande pardon, j'y vais de ce pas. « Attention !» fit Mgr Espelette, comme malgré lui. Et déjà, il regrettait ce cri imprudent. Mais le regard qu'il reçut de Pernichon, il ne l'oublierait jamais plus. « Oh, oh, quoi ! » dit l'auvergnat d'une voix profonde. « Celui-là, lui aussi ?»« Voulez-vous vous taire ?» supplia l'évêque de Pommiers, au désespoir. « Vous êtes fou, mon enfant. Vous êtes dans un état d'énervement, d'exaspération. Le moindre mot a sur vous un retentissement. Je vous conjure, n'interprétez pas, écoutez simplement. En vous sent prêt à tout, affolé. Je craignais pour vous une déception. Monsieur l'abbé Sénabre est froid, très froid en apparence du moins, peu sensible, enfin il me semble, à une infortune comme la vôtre. Voilà tout. C'en est assez, dit Pernichon, glacial. J'ai compris. Non, vous n'avez pas compris. Votre plaie est encore si vive. « Quelle plaie ! N'en avez-vous qu'une ? Je crains que, pareil à ces blessés qui, sous le choc, ne savent dire où ils ont mal, vous ne soyez pas capable en ce moment de renseigner sur votre véritable état qui que ce soit, et surtout mon illustre confrère. Enfin, il me semble que vous souffrez d'abord dans votre juste et légitime ambition, mais vous souffrez aussi dans votre conscience. Votre conscience est troublée, » conclut-il d'un air fin. Ils traversèrent le boulevard Saint-Germain en silence. Ne parlons plus de ce mouvement de révolte, des paroles insensées. Oui, oublions-les. Je n'y reviens pas. Dès ce soir, vous en demanderez pardon à Dieu. Voyez-vous, mon cher enfant, il n'est qu'au ciel que Dieu soit servi par des anges de purs esprits. Nous devons tenir compte ici-bas de certaines nécessités sociales, politiques. Sur ce point, je suis tenu à une grande réserve, je pèse les mots. Mais enfin, une situation comme la mienne comporte des charges, de lourdes charges.
puissiez-vous tirer de cet aveu une consolation dans vos peines. Nous avons à lutter contre des préventions, des méfiances. Veuillot et ses pareils nous ont fait tant de mal. Les apôtres laïcs sont de trop, chacun à sa place. Ce que nous avons voulu constituer, rassembler, c'est une petite troupe d'hommes sérieux, prudents, pondérés, aussi peu suspects que possible de préjugés de classe, de doctrine, favorables aux idées modernes, même ardemment démocrates. Qui soient, qui nous servent, comment dirais-je, enfin, et qui soient nos intermédiaires officieux auprès du pouvoir. Car sans le pouvoir, ne nous faisons pas d'illusions. Restons en face des réalités. L'État est plus puissant que jamais. Il avait repris le bras de Pernichon et le serrait étroitement sur sa poitrine. Dans ces conditions, mon pauvre enfant, il n'est pas raisonnable de s'étonner, de se scandaliser de certaines imperfections. Allez, allez, elles m'apparaissent comme à vous. Ce sont des ombres, de petites ombres. Nous ne les verrons plus dans le rayonnement de l'œuvre achevée amenée à son point de perfection. L'Église et la société moderne, enfin d'accord, réconciliées. Il baissa la voix. J'ai la réputation d'un prélat, pour parler comme une certaine presse, avancé. Cela se peut, si vous saviez cependant avec quelle joie je me retrouve à Pommiers. Ces vieux curés, ces simples prêtres, très simples. Tenez, une idée me vient. Vous devriez faire une retraite de quelques mois dans votre Auvergne, au sein de votre aimable famille. « Quelques mois !» s'écria Pernichon amèrement. « Ma chère Auvergne, mon aimable famille ! Et que ferai-je dans quelques mois ? D'abord, je n'ai plus de famille. Où prendrai-je seulement les frais de voyage et de séjour ? Mon installation m'a coûté horriblement cher. Je dois 9 000 francs à M. Catani, c'est vrai. Mais j'ai encore signé pour près de 11 000 francs de traite à l'usine générale du meuble. Mon départ du journal, la ruine de mon enquête, suffisent à consommer ma perte. Je ne me relèverai pas. Je ne puis me permettre d'avoir des dettes. Sans la considération, je ne suis rien. » Il prononça ces derniers mots avec une gravité farouche. « Écoutez, dit Monseigneur Espelette, nous voici bientôt rendus. Nous allons nous séparer. Oh, pour 5 ou 6 semaines à peine, rectifia-t-il aussitôt naïvement. Enfin, je vous donne un dernier conseil. » Il se recueillit, sourit. Je ne vois à présent qu'un homme dont la situation, très particulière, l'indépendance absolue à l'égard de ceux dont nous parlions tout à l'heure, un certain goût du paradoxe, du défi, son scepticisme même, très exagéré par la médisance, croyez-moi, mon ancien condisciple à l'école normale, auquel vous venez de rendre visite, M. Guéroux. « Oh !» fit Pernichon. « Oui, oui, je devine ce que vous n'osez pas dire. C'est un homme un peu mystérieux, énigmatique. Nul n'a déploré plus que moi l'immoralité de ses livres. Mais il n'a plus écrit une seule ligne depuis des années. Son infirmité, sa patience, sa résignation, hélas, toute humaine, le rendent digne de pitié et d'égard. D'ailleurs, il porte le plus grand intérêt aux problèmes religieux, à ses solutions les plus neuves. Et puis, son influence est grande. Je le crois même un peu redouté. À un signe de Pernichon, il rougit légèrement et reprit d'un air piqué « Permettez-moi de ne faire aucune allusion à certaines calomnies. Je ne pense qu'à vous, mon cher enfant. Ne croyez jamais si aisément, sur parole, les gens bien informés. Jusqu'à ces toutes dernières semaines, vous le savez mieux que personne, M. Guéroux menait à la campagne une vie très retirée, très secrète, qu'on m'a dit même austère. Je l'ai vu 5 ou 6 fois l'an passé, sans que le plus petit indice, enfin j'ai appris son retour à Paris en quittant Pommiers. Pour moi, c'est la démarche d'un homme qui se sent condamné, se met en présence de la mort imminente, c'est-à-dire en quelque sorte devant Dieu. Laissons cela. » Il s'arrêta au seuil de l'hôtel Puppet-Gibon, tout frémissant de sympathie, de bonne volonté, d'impatience, et d'un geste de sa main gantée, il écartait, il dissipait déjà ainsi qu'une légère fumée, ainsi qu'une odeur importune, ce drame où il avait failli entrer, auquel il venait de fermer son âme, le tragique Pernichon. « Vous avez tout à l'heure quitté la pièce en forcené, sans dire adieu à personne, et après une scène regrettable que notre hôte était en droit de juger inconvenante, conclut l'excellent prélat. Il me paraît indispensable que vous alliez d'abord lui présenter vos excuses, et le plus tôt sera le mieux. Vous avez là une excellente entrée en matière. Pour le reste, mon cher enfant, je m'en fie à votre naturelle droiture, à votre intelligence, à votre tact. » Il lui prit une dernière fois les deux mains, les serra de toutes ses forces et disparut sous le porche vide et sonore avec un parfum de verveine et d'encens. L'Auvergnat descendit rapidement la rue. D'ailleurs, il n'allait nulle part. Le nom même de M. Guéroux avait traversé son cerveau sans laisser de traces. Il se sentait merveilleusement vide. Depuis un moment, la présence de l'évêque de Pommiers lui était devenue, à son insu, intolérable. Son désespoir n'en était plus à chercher un confident, mais un complice, et ce complice était en lui. Ce qu'il emportait en fuyant, c'était cette pensée qu'il tenait dans son misérable cœur, sans avoir encore osé l'affronter, qu'il pressait étroitement, de peur qu'elle ne s'échappât, ainsi qu'un chasseur en maraude serre sous sa blouse l'oiseau volé dont il sent frémir les ailes. La rapidité de sa course l'oppressait, mais son délire était tel qu'il fuyait cette oppression, comme tout le reste, en hâtant le pas. Il finit par s'arrêter dans une rue déserte, à bout de force. L'asphalte, tout à l'heure éclatant de blancheur, lui apparut noir et luisant. Il avait les épaules glacées. Pourquoi ? Pourquoi cette rue déserte et noire ? À cet instant, il s'aperçut qu'une averse l'avait trempé jusqu'aux os et qu'il était devant la porte de M. Guéroux. Le seuil à peine franchi, il regretta d'être venu par une sorte de pressentiment ineffable. On l'avait introduit dans le salon une heure plus tôt, retentissant des éclats de sa chétive colère, et le souvenir du grand et unique effort de sa pauvre vie achevait de l'accabler. Par quel mystère était-il ici, plutôt qu'au genou de l'abbé Sénabre, auquel il avait gardé sa foi? Il n'y comprenait rien, et n'y voulait rien comprendre, étant à ce dernier tournant où la tyrannie des circonstances commence à paraître bienfaisante et douce, lorsque le hasard est invoqué comme un dieu. Car jamais il n'avait senti pour l'homme célèbre, qui était en ce moment son dernier recours, autre chose qu'une admiration craintive et beaucoup de méfiance, la méfiance d'un petit provincial besogneux pour l'écrivain opulent, dont la réputation universelle était plutôt d'un voluptueux amateur aux mœurs suspectes. Rarement jeune ambitieux connut telle fortune que ce fils de magistrat obscur, candidat malheureux à l'agrégation S-lettres, mal noté par ses maîtres, presque renié par les siens, et qu'un livre étrange venu à son heure fit tout à coup célèbre, mais de cette espèce de gloire qui ne se ménage pas, qui se donne une fois pour toutes à plein bras comme une fille. Par quelle rencontre ce garçon, alors si vivant, si insolemment vivant, retrouva-t-il sans l'avoir cherché, ainsi que son bien légitime, le secret perdu de la médisance assassine, d'une perversité si calculée qu'on n'en trouverait pas d'exemple depuis ces ténébreux petits maîtres du XVIIIe siècle? Le roman à clé, divertissement spécial, désormais noté d'infamie, tombé à des entrepreneurs sans vergogne, se trouva soudain réhabilité par un jeune inconnu qui ne savait rien du monde que ce qu'il entraîne dans les cabarets à la mode, où l'avait introduit une gourmandise, pour mieux dire une voracité, mais si franche, si loyale, si bon enfant, qu'elle lui avait gagné des cœurs. On doit néanmoins ajouter qu'il rédigeait dans le même temps plusieurs chroniques gastronomiques fort savantes dont il savait payer habilement son écho. Lorsque Mécène et ses suivantes parut 2 ans plus tard, la censure académique fit silence, et le public hésita quelques semaines à l'entrée du mauvais livre dont il guettait les lumières et les cris à travers les fentes de la porte. L'hésitation dura jusqu'aux vacances, l'enthousiasme des casinos finit par l'emporter. Ce livre plein de lueur, à la limite de la grande satire, où l'auteur n'atteignit jamais, car il est insensible, non pas seulement à l'indignation, mais au dégoût même, fut porté au nu. Et il est juste de dire qu'il achevait de libérer le public de la tyrannie abjecte d'un vieillard obsédé d'une lubricité dégoûtante, accommodé au goût des professeurs grâce à un jeu de notes et de fiches relié entre elles par des rosseries volées aux brasseries des boulevards, mais transformé par un emploi judicieux de la mythologie. Mécène et ses suivantes atteignit le 360e mille en peu de mois. Dès ce moment,
M. Guéroux fut un auteur à la mode, et chaque aube le vit sommeillant dans un de ces lieux de plaisir où se tient le sabbat de tous les démons de l'ennui. L'ancien chroniqueur fit la loi dans les cabarets où il n'était jadis que toléré. Il y rendit des arrêts sans recours et son ventre pointait déjà sous la nappe. C'est alors que cet homme singulier donna les premiers signes de lassitude et la publication d'un second livre assomma cet thuriféraire, fit le vide autour de lui. Sur la foi de sa gourmandise, de son franc rire dont personne n'avait encore noté le hennissement, on l'avait tenu pour un amuseur inépuisable en malice et facétie, et il se dénonçait soudain. Son livre, écrit sous la forme d'un journal, notait avec une précision, une autorité, une cruauté sans égale, non plus les faits divers de la vie parisienne, mais les événements de sa propre vie, et avec une telle minutie, une si froide impudence, que la suite de ses aveux calculés, impitoyables, d'une effrayante monotonie, néanmoins impossible à éluder, car on se trouve entraîné dans leur déroulement logique ainsi que dans la succession d'un cauchemar, causait une espèce de malaise qu'un petit nombre seulement d'électeurs de Mécène et ses suivantes fut capable de supporter. L'illustre éditeur, qui avait spéculé sur un triomphe, garrotté par un traité léonin, dut se résigner au désastre. Mais l'auteur n'y perdit que peu, car, délaissé de son public, il vit aussitôt se ranger sous lui une troupe dévote qui le reconnut pour son chef. Et le succès en Allemagne, surtout, fut immense. Son troisième livre décida probablement de son destin. C'est le chef-d'œuvre d'une âme aride, c'est la gageure d'une intelligence dont la recherche enragée a quelque chose d'héroïque, mais qui, livrée à elle-même, réduite à se dévorer, ainsi que l'animal légendaire, s'épuise à mesure qu'elle avance, et s'arrête, condamné sur la route affreuse qui aboutit ensemble à la perfection et au néant. Les vices qui tenaient dans son second livre tant de place ne sont évoqués cette fois que par allusion, avec méfiance. Il semble que l'auteur dédaigne déjà cette part encore trop positive de sa vie. Il ne condamne à n'en connaître que les intentions, et ces intentions n'aboutissent qu'à la vaine fécondation d'intentions nouvelles qui se perdent elles-mêmes dans le vide. Puis s'en fut assez pour jamais. M. Guéroux n'écrivit plus rien. Après un temps de surprise, le silence finit par être accepté par tous comme l'aboutissement nécessaire d'une introspection creusée jusqu'au sacrifice total, jusqu'à l'absorption du regardé par le regardant. Dès lors, il reçut l'espèce de consécration universelle si rarement donnée aux artistes vivants, et il sut porter avec esprit sa renommée. Riche sans doute de quelque héritage ignoré, traitant magnifiquement ses hôtes, providence discrète d'étrangers faméliques qui portaient au loin sa gloire, administrant son redoutable orgueil avec une prudence consommée, trop habile ou indolent pour se compromettre en rien, il vit peu à peu s'asseoir à sa table, qu'il avait somptueuse et généreuse à souhait, les convives les plus divers et les renvoyer contents. Mais nul d'entre eux ne se vanta jamais de connaître le fond d'un tel homme. On lui donnait des vices sans pouvoir le convaincre d'aucun. Son dédain de l'argent était proverbial, son obligeance reconnue, sa tolérance infinie. Et néanmoins, le silence tout à coup gardé sur lui-même, après un double scandale, ne lui fut jamais pardonné. La dignité de cette vie en apparence publique, bien qu'elle ne laissât rien paraître de ses douleurs ou de ses joies, semblait un défi à la curiosité, jadis excitée avec tant d'art, et qui dévora ce qu'elle put atteindre de cette victime difficile et réservée. Elle assista sans pitié à l'incessante dégradation du misérable envahi par la graisse, étouffé par une obésité monstrueuse, et attendit impatiemment la mort pour ouvrir les secrétaires et cambrioler les dossiers. Mais elle n'apprit jamais rien. M. Pernichon attendit 20 minutes. L'immense appartement, loué depuis peu, gardait les traces d'une installation récente et hâtive, la couleur des papiers, l'odeur de colle et de peinture fraîche, et cette autre odeur du molleton des draperies neuves. Le salon était encore tel que l'avaient laissé les invités à l'instant de leur brusque départ, et son extrême désordre semblait prêt de tenir en secret, comme si les choses inanimées eussent retracé avec une implacable précision, dans leur immobilité sinistre, quelques-uns de ces gestes fugitifs qui, en dépit des paroles, dénonce les âmes. Et bien que le trouble du malheureux publiciste l'empêcha de faire aucune remarque sérieuse, et qu'il se répéta tout bas, mécaniquement, la phrase d'excuse méditée sur le palier, sans pouvoir échanger un mot, il sentit néanmoins confusément que cette suprême tentative était une faute de plus, probablement irréparable. « Monsieur vous prie de passer dans sa chambre, » dit une voix. « Il est trop fatigué pour vous recevoir ici. » Pernichon l'entendit mal, mais obéit cependant. Il traversa en aveugle une pièce beaucoup plus sombre, une galerie franchit le dernier seuil, et aperçut enfin l'hôte mystérieux qui, levant à peine une main bénissante, les paupières mi-closes, la bouche tirée en dedans par l'imminente paralysie, ne lui donna d'abord en manière de bienvenue qu'un bredouillement presque indistinct. Puis cette espèce de cadavre dans son linceul de graisse s'agita tout à coup et les doigts gonflés serrèrent les siens avec une vigueur surprenante. « Maître, » fit d'un trait l'auteur des lettres de Rome, « je viens vous supplier de croire que je regrette profondément, cruellement, d'avoir été la cause involontaire d'une scène fâcheuse à tous égards, et vous prier de me pardonner. »«
Vous pardonner ? » s'écria M. Guéroux. « Vous m'offrez des excuses ? Je pensais que vous veniez recevoir des félicitations. »
Il contempla une seconde le petit bonhomme tremblant, pinça les narines pour flairer de loin sans doute le vieux par-dessus trempé de pluie, saisit tout d'un regard et dit « Vous les avez assommés. Ils ont aujourd'hui trouvé leur maître. C'est un beau coup. » Pernichon, stupéfait, inclina la tête et se tut. « Voyez-vous, » reprit l'infirme, avec une atroce ironie, « tout homme digne de ce nom d'homme rencontre une fois dans sa vie l'occasion, la divine occasion. Vous avez sauté dessus, un peu brutalement, je l'avoue, au risque de la renverser. J'aime l'audace. À votre âge, c'est presque une forme de la prudence. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? » dit-il après un silence, paternellement. Le rouge vint aux joues du malchanceux. Il ne voulait pas douter d'être mystifié, il en sentait déjà la honte. Et pourtant, si féroce qu'elle fût, la curiosité de M. Guéroux touchait inexplicablement son cœur. Il eût voulu le remercier. « Je ne plaisante pas, » continua l'auteur de mes scènes, comme s'il lisait dans le pauvre regard plein de larmes, « je sais très bien qu'il faut faire la part du hasard, des circonstances. Votre mérite n'en est pas moins grand. Ne vous y trompez pas, mon cher confrère. Le coup a été rudement porté. Achèverez-vous cet homme, oui ou non ? Vous voyez que je parle franchement. »
« L'achever, maître, » dit Pernichon, « vous vous moquez de moi. Je voulais justement. Enfin, je n'ai pas de haine contre M. Catani, et il me serait d'ailleurs bien difficile de lui faire aucun tort sérieux. »«
Aucun tort ? Aucun tort sérieux ? Qu'en savez-vous ? Une seule parole peut tout, pourvu qu'elle soit dite à propos. Entre nous, mon ami, les gens ne redoutent que le scandale. Quiconque est réduit par l'injustice au désespoir a toujours cette ressource-là. Il est vrai que l'hypocrisie universelle est solide. Pour la faire sauter, il faut une rude charge de poudre, et 99 fois sur 100, le sapeur saute avec sa mine.
« Je voulais, c'est pourquoi je voulais justement, » répéta Pernichon. Puis il s'arrêta, étranglé par l'angoisse. Sûr d'avoir été deviné, il ne se sentait néanmoins plus le courage d'avouer sa faiblesse. Il savait qu'on attendait désormais de lui qu'il la montrât, qu'il la livrât sans pudeur. Elle était là, elle était prête, et le regard qu'il sentait toujours fixé sur le sien la réclamait impérieusement, mais il n'osait pas la donner.
« Dites-moi ce que vous voulez, allons donc, » fit M. Guéroux. « Je me doute bien que vous n'êtes pas venu ici pour me présenter seulement des excuses. J'en ai déjà tant reçu. » Mais on me fait rarement l'hommage d'une douleur sincère, ingénue, sans détour. Enfin, si j'ose parler ainsi, d'une douleur vierge, vierge comme l'or. Je vous sens profondément malheureux. » Sa voix s'embarrassa sur les derniers mots, et il reprit péniblement son souffle à petits coups. « Ce que je viens de dire ressemble à une plaisanterie, une forfanterie un peu cynique. Ne le croyez pas. La souffrance d'autrui ne peut plus rien pour moi, absolument rien. » Ce sont des bêtises d'envieux, car j'ai encore des envieux, moi. » Il souleva pesamment son torse. « Vous voyez, on ne décourage pas l'envie. »
Maître, balbutia Pernichon, ce que j'attends de votre bonté. Ne me parlez pas de bonté, s'écria M. Guéroux. Vous êtes venu à moi, mais si, je le sais, plein de préjugés, en désespoir de cause. Parions même que Ludovic vous y a poussé, hein? Je devrais dire Monseigneur l'évêque de Pommiers, mon vieux camarade de Normal, quel imbécile! Jeune homme, c'est sans doute une loi de ma nature. Le prêtre médiocre exerce sur moi une espèce de fascination. Cela réveille en moi un appétit. Cela excite encore une cervelle qui n'est probablement plus qu'une petite pelote de graisse. Je parle du prêtre médiocre, car sitôt évadé, rendu libre, ce ne sont entre nous que des bons hommes ennuyeux. Témoin ce loisir que j'ai tant aimé, devenu un pédant rageur et qui m'assomme. Mais Ludovic... Monseigneur Espelette m'a donné ce conseil, en effet, avoua Pernichon. Il a toujours été très bon, très bienveillant. La bienveillance même, cria M. Guéroux d'une voix aiguë. N'allez pas prendre au tragique une plaisanterie amicale. Venons-en plutôt aux choses sérieuses. Vous voulez vous venger de M. Catani? Eh bien, j'ai là, dans un de mes tiroirs, pour vous, rien que pour vous. Il appuya sur un timbre. Je vous jure, protesta l'Auvergnat au désespoir. Ne jurez pas, continua paisiblement M. Guéroux, vous me remercierez tout à l'heure. Les plus grands de nos plaisirs, jeune homme, sont ceux que nous repoussons d'abord, parce que nous craignons sottement pour notre fragile machine. Nous sommes encore plus paresseux pour jouir que pour souffrir. Est-ce bête ? Il sonna de nouveau. J'appelle mon infirmier, expliqua-t-il, déjà oppressé sans doute à la pensée de l'effort qu'il allait tenter. Depuis des mois, je ne puis plus me passer de ses soins. C'est un serviteur dévoué. À l'instant même, ce serviteur dévoué parut sur le seuil, et Pernichon vit avec stupeur un vigoureux gaillard, serré dans un tablier bleu de garçon jardinier, le visage barré d'une épaisse moustache d'un noir de jais, les manches retroussées sur des bras énormes et velus. « Demandez Lucie, » murmura tout bas M. Guéroux à son étrange gardien, sur un ton presque suppliant. Elle tient les jambes lorsque vous me soulevez par les épaules et j'en éprouve un grand soulagement. Car vous m'avez un peu brutalisé hier, mon ami. Mademoiselle est en course, dit le géant d'une voix dont il s'efforçait pourtant de changer le timbre. Que monsieur m'empoigne seulement par le cou et je réponds du reste. S'il ne fallait que patienter une minute, reprit presque timidement l'infirme. Mademoiselle est en course à Saint-Leu, dit l'homme. Chez l'ami que monsieur sait pour lui porter la lettre. Il est naturel, conclut-il avec un effroyable accent, qu'elle ne peut rentrer avant ce soir 10 heures ou 11, si monsieur peut patienter jusque-là. Il n'attendit pas la réponse, s'arc-bouta. L'illustre écrivain lia péniblement ses bras autour du cou en gémissant. Le garçon roidit les reins, et Pernichon vit sur les biceps gonflés se dessiner en sombre un tatouage compliqué, mal effacé par l'acide. M. Guéroux reprit lentement son équilibre, chancelant sur ses courtes jambes, les bras demi-tendus ou agités d'un mouvement convulsif à chaque faux pas, le regard rapide et anxieux dans la bouffissure inerte de la face. Il s'approchait de la fenêtre, tâchant de guider par petits coups, de biais, la masse molle de son corps. « Monsieur va rudement mieux, dit l'homme. Dans 6 semaines, 2 mois, « Monsieur trottera comme un lapin, c'est couru. » La jambe reprend, et depuis quelques jours, la fesse est bien plus ferme. Oh là là! Sur un signe de M. Guéroux, et après un dernier coup d'œil complice, il sortit. « C'est un masseur extraordinaire, » confia M. Guéroux avec un sourire navrant. « Je vous demande pardon, il est affreusement mal élevé, mais sincère. Il a servi 11 ans dans la Légion. » Des deux mains, il avait saisi l'angle du meuble, puis, toujours geignant, il fit glisser la tablette, prit une liasse et regagna lentement son fauteuil. Mais Pernichon ne crut pas pouvoir supporter plus longtemps le spectacle du monstrueux marmot à cheveux gris, dont chaque pas hésitant était comme une parodie sacrilège de l'enfance. Il se leva d'un mouvement convulsif. « Je désirerais, je n'ai probablement pas le droit d'accepter de vous, un service dont je ne crois pas être en mesure de tirer le profit que vous pensez, du moins pour l'instant, dit-il sans oser lever les yeux. M. Guéroux éclata de rire. « Vous n'en tirerez aucun profit, je le sais bien, que diable » cria-t-il.
Nous ne nous comprenons pas. Laissez-moi faire.
J'ai toute ma tête. Cela ne m'arrive pas tous les jours. Asseyez-vous ou restez debout, ça m'est égal. J'en ai d'ailleurs pour 5 minutes. M'écoutez-vous ?
Oui, monsieur, dit Pernichon, vaincu.
L'auteur d'Eurydice eut un véritable soupir de soulagement.
J'aime votre franchise, dit-il. Vous êtes un bon, un excellent jeune homme de l'espèce la plus commune.
Cela me rafraîchit de vous voir.
Il y a là-dedans, il frappa du plat de la main sur la liasse, de quoi gêner furieusement le vieux Catani et quelques autres.
Ne vous troublez pas, ce n'est rien, c'est le plus insignifiant de mes petits dossiers. Une collection unique. Depuis 20 ans, je classe, je mets en ordre, je bourre ma mine, voilà mon œuvre.
Je ne comprends pas pourquoi, ce qui me vaut, protesta timidement Pernichon, rouge de honte.
Nous y voilà, dit l'infirme. Vous êtes venu à propos, rien de plus. J'ai de tristes pressentiments, jeune homme. Cela ne va guère, je ne vivrai pas longtemps ici. Je n'aurais pas dû quitter Barfleur, j'ai rompu des habitudes. Bref, je me sens de la pitié pour vous. Je ne suis plus capable d'admirer grand-chose, mais j'ai apprécié votre audace, je vous ai trouvé courageux.
Ne vous moquez pas de moi, murmura Pernichon. Je n'ai montré aucun courage. Je me suis laissé emporter. Je suis réellement très malheureux.
Le vrai courage s'ignore soi-même, déclara M. Guéroux. Vous vous jugez mal. Pour moi, je vois votre pensée comme dans un miroir.
Hein? Vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout.
Vous iriez baiser la main de Catani, ramasser votre pardon avec les gencives, que sais-je?
Hein? Vous iriez, ce serait bon.
Au lieu qu'il vous faut entamer la lutte, rendre coup pour coup, faire le brave.
Je ne ferai rien de pareil, monsieur, dit Pernichon, vous le savez bien.
Même si j'étais capable d'utiliser les armes que vous mettez à ma disposition, on n'aurait pas beaucoup de peine à les retirer de mes mains. Et pour demander pardon à monsieur Catani, il est trop tard. J'ai perdu ma place, je suis l'homme d'une place.
La place perdue, l'homme n'est rien.
Monsieur Guéroux prit un journal sur la table, en fit une espèce de torche qu'il acheva de tortiller soigneusement, l'alluma, saisit la liasse et jeta le tout pêle-mêle dans la cheminée. La flamme jaillit et ronfla. Alors, mais alors seulement, les nerfs surmenés de Pernichon se brisèrent et il éclata en sanglots, les yeux secs.
« Rien ne vous retient plus, c'est mieux ainsi, » dit l'autre posément, avec un regard atroce.
« Oui, rien ne vous empêchera désormais de vous tuer, pour peu que vous en sentiez l'envie.
Car vous en avez l'envie. »
Remarquez, en passant, que les circonstances ne justifient pas le moins du monde un suicide. La plupart de vos maux sont imaginaires, et vous exagérez les vôtres comme à plaisir. Il vous coûterait moins de vous tuer que d'avouer à présent que vous vous êtes affolé pour rien.
Vous êtes vaniteux. Toutes les passions peuvent mettre un jour le revolver en main, mais à la fin du compte, c'est la vanité qui tue. Si j'étais vaniteux, je serais mort depuis longtemps.
Notez encore qu'après tout, vous ne vous tuerez peut-être pas, vous êtes libre. Seulement, j'ai lu ça sur votre visage, dès votre premier pas dans ma chambre.
Chacun de ces mots, chargé de substance, venait frapper l'un après l'autre, avec une horrible précision, le même point de la conscience, et l'angoisse de Pernichon s'en trouvait comme engourdie.
En dépit d'un premier mouvement de terreur, il avait écouté cet aveu de sa profonde et secrète pensée, fait pour une autre bouche que la sienne, et il en éprouvait à mesure un soulagement indicible. Le regard qu'il attachait sur M. Guéroux était d'un esclave, mais ce regard, c'était à présent M. Guéroux qui l'évitait.
« J'ai dit la même chose à Loda en 1918 », reprit l'auteur de Mécène avec un rire forcé.
« Vous connaissez Loda ? Il ne s'en porte pas plus mal aujourd'hui. Mais je serais désolé de vous avoir déplu. »«
Vous ne m'avez pas déplu, » murmura l'Auvergnat dans un rêve.
« Tant mieux !» s'écria gaiement M. Guéroux.
« Vous sortirez de là, jeune homme. Un bon coup de sonde est toujours le bienvenu, même s'il fait mal. »«
Mais je ne voulais que plaisanter. Voyez-vous, je suis fabuleusement sensible à certains états comme le vôtre. Je vous désignerai dans la rue, à 20 pas, l'homme dont la résistance morale est à bout, l'homme qui va se rendre. À la veille d'une bataille décisive entre 2 généraux, je pourrai parier à coup sûr pour le vaincu. »
Ça n'est pas drôle. Et maintenant, permettez. Je voudrais que vous ayez l'obligeance d'entrouvrir la fenêtre à votre gauche, là, oui. Vous n'avez qu'à étendre le bras. Merci, je ne me sens pas très bien. Il suait à grosses gouttes. Vous voyez ce petit tas de cendres, reprit-il après un silence, en désignant du doigt la cheminée. Je suis satisfait de l'avoir détruit. Le reste suivra. Je n'en veux plus. Figurez-vous que j'avais écrit des, enfin, il faut bien l'avouer, des mémoires. Est-ce assez bête? Je les ai détruits aussi. Qui le saura? Il jeta furtivement sur Pernichon un regard qui le condamnait, l'effaçait déjà du monde des vivants. « Qu'allez-vous faire en sortant d'ici ? » interrogea-t-il tout à coup. Le malheureux eût été incapable d'imaginer le moindre mensonge. Il répondit, fasciné, « Je comptais écrire un mot à M. l'abbé Sénabre. »« Excellente idée !» triompha M. Guéroux. « Excellente idée ! Sénabre peut vous servir !» Un long moment, il mâchonna d'autres paroles indistinctes. La sueur coulait régulièrement de son front, et il l'épongeait parfois d'un geste nerveux, fatigant à regarder. Sans doute quelque chose commençait de l'emporter lentement dans son cœur sur la curiosité impitoyable, à peine soupçonnée d'un petit nombre, et dont il garderait à jamais le hideux secret. Enfin, il haussa les épaules, pour dire aussitôt, avec une espèce de tendresse, « Comment diable êtes-vous venu me trouver ce soir ?» Mais l'Auvergnat, décidément apaisé, ne résistait plus, s'abandonnait. Sa pauvre âme, préparée à cette détresse voluptueuse par l'anxiété des dernières semaines, brisée par l'immense effort qu'il avait fait ce jour même, il se donnait à l'homme étrange qui lui parlait un nouveau langage, qui le traitait ainsi en égal. Tout le passé n'était qu'un rêve. Le présent même s'évanouissait. Jamais l'idée de suicide n'avait été dans son esprit plus vague, plus inconsistante, moins formulée, et pourtant jamais encore elle n'avait été si vivante. Le cerveau la concevait à peine, elle était comme la morose rumination de l'être tout entier. La conscience, déjà vaincue, faisait silence. Pour la raison que j'ai dite, j'y avais été poussé par Monseigneur Espelette. « Je m'en doutais, » s'écria M. Guéroux. « Cela donne la mesure de son bon sens. »« Vous avez connu l'abbé d'Artel ?»« Non, monsieur, » dit Pernichon. « Il vous ressemblait, je crois l'entendre. » C'était un de ces faibles de la pire espèce de faibles, de ces ambitieux qui ont besoin de sympathie et pas de santé. Un autre Pernichon. Je l'ai vu avant son départ pour la Belgique, un soir. Attendez, non, c'était un soir de décembre, un soir d'hiver. Pourquoi vous autres, vous jetez-vous toujours dans la gueule du loup ? Il s'arrêta brusquement, prêt à l'oreille. Un cri aigu éclata non loin d'eux, dans le silence, s'éteignit aussitôt. L'Auvergnat n'entendit plus que la respiration de l'infirme, devenue rauque et brève. « Jules ! » cria-t-il tout à coup d'une voix tonnante. Il fit pour atteindre la sonnette, à quelques pas, un immense effort. Mais comme il étendait la main, la porte s'ouvrit doucement et l'ancien légionnaire fit paraître dans l'entrebâillement une face transfigurée par l'insolence et la peur. « Vous m'avez menti ! » cria de nouveau M. Guéroux. Son agitation était si extraordinaire que Pernichon le crut d'abord frappé de démence. Malgré lui, son regard chercha celui de l'infirmier pour y trouver la même crainte. Mais à sa grande surprise, il ne vit dans ce regard qu'une soumission désespérée et il se sentit étreint par la déception des rêves lorsque les visages qui passent ne reflètent rien de notre angoisse.
« Me voilà, monsieur !»
dit alors derrière lui une voix inconnue. Ce qui venait d'apparaître se rencontre rarement en plein jour, en pleine lumière, dans un appartement à la mode. Peut-être cette disproportion faisait-elle d'ailleurs à elle seule la singularité du spectacle. Mais le contraste était trop fort, déchirait trop le cœur. Le cou de M. Guéroux s'empourpra, tandis qu'une tache blême s'élargissait autour de ses lèvres.
« Sortez ! Qui vous appelle ? Sortez donc ! » cria-t-il de la même voix tonnante.
Pour fuir plus vite, la petite fille passa par-dessus la table basse où fumait encore la théière, sa jambe maigre et son bas sordide. Pernichon vit la face lamentable, couleur de peau morte, où luisaient des yeux que la terreur rendait farouche. Avait-elle 10 ans ou 15 ans? Elle disparut.
« Que t'ai-je dit ? » reprit Monsieur Guéroux.
« Comment laisses-tu courir ça et là, cette petite ordure ?»«
On n'en est plus maître depuis que la garçonnière de la rue d'Ulm est fermée, » fut la réponse.
Pour la première fois depuis le début de cette scène bizarre, l'infirme parut se souvenir de la présence de Pernichon, et il se contenta de hausser les épaules avec une indifférence affectée.
« C'est la faute de monsieur qui croyait que j'avais frappé mademoiselle, » remarqua le masseur en tablier bleu.
« Mademoiselle est bien là-bas, comme j'ai dit.
Voyons, je n'ai jamais seulement touché mademoiselle. C'est les histoires.
Mais je ne puis pas venir à bout de celle-là. Elle m'a mangé la moitié d'un kilo de sucre. Je fais monsieur juge.
« Assez !» interrompit monsieur Guéroux. « Je suis là de toutes ces histoires. Allez-vous-en !»
Il se laissa retomber dans son fauteuil, les deux mains croisées sur son ventre, la tête inclinée très bas. D'ailleurs, le silence de Pernichon, visiblement, l'exaspérait. Enfin, il éclata.
« Vous avez des vices, vous ?»«
Moi ?» balbutia Pernichon, épouvanté. « Oui, non, c'est-à-dire... » « Ce que le vice a de bon, » reprit l'auteur de Mécènes, subitement calmé, « c'est qu'il apprend à haïr l'homme. Tout va bien jusqu'au jour où l'on se hait soi-même. Car enfin, mon garçon, je vous demande, haïr en soi sa propre espèce, n'est-ce pas l'enfer ? Croyez-vous à l'enfer, Pernichon ?» Il n'attendit pas la réponse.
« Moi, j'y crois, » fit-il.
« Tenez, n'allons pas plus loin. Ma maison est un enfer. Vous verrez que je n'aurai pas la consolation de mourir à Paris. Je devrais retourner à Barfleur, je m'y fais mieux obéir. Ce que vous venez de voir n'est qu'un épisode entre mille. Depuis que je suis immobilisé par cette abominable enflure, ma pauvre vie reflue à la surface, ainsi qu'un égout engorgé. Jules est trop bon, il n'a pas la poigne. Et quelle lettre atroce je reçois, mon ami !»
Il s'arrêta, fixa sur son interlocuteur un regard étonné.
Sans doute une part de ces paroles mystérieuses restait une énigme pour M. Pernichon, mais il venait de comprendre que l'infirme était, lui aussi, à une de ces minutes où le plus tenace ou le plus rusé se renonce. Et l'on doit dire que M. Guéroux offrait en effet à son tour l'image même et comme le spectre de la déroute intérieure. À présent, la tête énorme semblait flotter de l'une à l'autre épaule, telle une épave sur une eau morte. Le lamentable écrivain parut même un instant absorbé dans une méditation grotesque, et M. Pernichon le crut d'autant plus aisément que le prompt relâchement des muscles de la face fit saillir la bouche en avant, dont les lèvres bleuâtres formèrent aussitôt une sorte de sourire. Néanmoins, l'Auvergnat ne s'y trompa pas longtemps, car cette bouche s'entr'ouvrit tout à coup pour laisser échapper, avec un flot de salive, au lieu de mots intelligibles, un gargouillement confus. Il se leva, toucha du bout du doigt le torse inerte, gagna la porte d'un bond, puis, la main sur la poignée, hésita, revint lentement vers la table et sonna.
« Merde !» s'écria le légionnaire.
En une seconde, M. Guéroux fut hissé sur l'épaule et jeté plutôt qu'étendu sur un large divan de cuir. En une autre seconde, ses vêtements arrachés s'éparpillèrent sur le tapis, et déjà l'homme frappait à tour de bras d'une serviette mouillée sur le corps nu. Il frappa longtemps, poussant à chaque coup une plainte étouffée. M. Pernichon pouvait lire une véritable inquiétude, ou même quelque chose de plus, sur le visage dont il s'était détourné tout à l'heure avec dégoût. Cette inquiétude s'aggrava jusqu'à l'angoisse, puis les traits se détendirent, et à la grande surprise de l'auteur des Lettres de Rome, une sorte de sérénité s'y répandit, qui ressemblait à une affreuse tendresse. M. Guéroux venait de respirer faiblement. « Il s'en tirera, » dit le masseur en passant sous son nez le dos de la main.
« Nom de Dieu, j'ai eu chaud !»
Il regardait avec douceur la masse de chair redevenue vivante, plaquée de rouge, où fumaient l'eau et la sueur. Mais la surprise de Pernichon devint de l'effroi lorsqu'il vit la moustache noire tordue par une grimace significative. Jules pleurait. « Malheur !» reprit-il avec un clin d'œil cordial. « Quel tempérament !»
On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, depuis que le monde est monde, un tempérament pareil. C'est fort autant qu'un percheron. Ça voudrait tout arracher d'un seul coup d'épaule. Ça se ferait mourir pour rien, pour le plaisir. Quelle nature ! Sauf votre respect, monsieur, c'était un homme à crever 10 femmes, 20 femmes. Un colosse.
Je l'ai connu, moi qui vous parle, sain comme la main, beau comme un dieu. Je peux dire un gaillard. J'avais 15 ans à l'époque. On se serait fait couper en morceaux pour un homme pareil. Il faut que ça se laisse détruire par des femelles, des garces, respect de vous, monsieur, et qui n'ont pas l'âge, des vrais singes. Dieu sait ce qu'il en consomme, et de pas ordinaire. Ah, monsieur !» Il s'essuya les yeux avec un coin de la serviette, retourna M. Guéroux sur le ventre et frappa de nouveau à grands coups, bien que sans hâte. « Voyez donc, disait-il à Pernichon, la méthode est bonne, c'est brutal, c'est maussade, mais c'est simple comme bonjour, inratable. Dans 5 minutes, il sera debout, solide comme vous et moi. » Aussi fort que le voilà, il ne se meut plus aisément. Le sang est lourd. C'est la circulation qu'il faut entretenir. Et des massages, et tout. Un métier de forçat. Notez que j'ai des rhumatismes depuis le Maroc. Il y a des jours que je crie comme un gosse en le maniant. Il est si lourd. Eh, malheur, n'importe. Aussitôt mon temps fini, je suis venu le retrouver. J'aurais marché sur des tessons. J'étais infirmier légionnaire. J'ai appris exprès le massage à cause. Ainsi, oh, c'est un homme dangereux et qui a une manière de tenir son monde. Impossible de s'en passer. Il a le vice si aimable et une intelligence. Il jeta la serviette, disparut, revint aussitôt avec une robe de flanelle dont il enveloppa son maître avec un soin maternel. M. Pernichon n'osait répondre, ni même lever les yeux. L'auteur de Mécène, enfin, soupira. « Si c'était un effet de votre obligeance, dit l'infirmier, je vous demanderais de m'aider un peu à l'asseoir sans le brusquer. Retour de ses crises, il est d'un susceptible, c'est à ne pas croire. » Il rassembla les coussins autour des épaules, en glissa 2 sous la nuque, ramassa la serviette et, enveloppant une fois encore son maître d'un regard indéfinissable, glissa sur ses savates et s'en fut. L'Auvergnat rassembla son courage pour ne pas le suivre. La honte seule le retint un moment plutôt que la pitié. Le gros homme respirait lentement, les yeux mi-clos, ses bras étendus jetés au hasard, ainsi que d'un enfant surpris par le sommeil. Son visage était si calme, et le silence autour de ce visage si profond et si familier, que Pernichon eût souhaité d'oublier ce qu'il avait vu et entendu. D'ailleurs, que savait-il au juste? Qu'avait-il appris? Mais il se sentait submergé de dégoût, et si là, si là. Enfin le malade s'étira, gémit doucement, sans ouvrir les yeux. « Vous me croyez mort, jeune homme, murmura-t-il. Rassurez-vous, ces petits accidents sont au contraire les bienvenus. Je dors si peu et si mal. Il faut que le sommeil m'assomme d'un coup, comme ça, sans me faire attendre, ainsi qu'un pitoyable bourreau. » Il tâta de ses mains errantes la flanelle souple et frémit. « Oh, oh !» dit-il. « Je vous prie de m'excuser. Cela sans doute a été plus grave que je ne pensais. » Mais comme il ouvrait tout à fait les yeux, il s'aperçut que M. Pernichon avait disparu.